Merci à l'équipe qui nous a conduits dans la première partie de ce culte. Nous suivons toujours les pas de l'Ecclésiaste. Vous avez compris qu'il y a deux séries de prédications qui s'entremêlent, Jacob et puis l'Ecclésiaste. On est dans l'Ancien Testament. Nous nous souvenons de ce constat que l'Ecclésiaste dresse dès le début de son livre. « Tout est vanité, absolument vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité au plus haut point. » Pour le dire autrement, tout ce que l'être humain pourrait faire, entreprendre, tenter pour échapper à cette condition humaine qui est la sienne, celle marquée par le péché et ses conséquences, tout ce qu'il pourra faire est vain, dérisoire, inutile, vapeur, éphémère, etc., etc. Il y a deux semaines, nous avons commencé la première grande partie du livre au début du chapitre 1, verset 12, où l'Ecclésiaste, dans cette grande partie, il décrit la réalité de la vie. Il nous fait part de différentes tentatives qu'il a tenté d'entreprendre pour échapper à la condition humaine. Et le constat qu'il dresse, comme la thèse de ce livre, hein, tout est vanité. Il avait tenté, de chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 18, il avait tenté de trouver le bonheur par la recherche de la sagesse, du savoir, de la connaissance. Et le résultat de sa quête, je vous le relis ici, « Je me suis appliqué à connaître la sagesse et la connaissance de la folie et la stupidité. Je me suis aperçu que là aussi, c'est poursuite du vent, car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. » Alors, si ça ne marche pas par cette voie de la recherche de la sagesse, de la connaissance, etc., peut-être y a-t-il une autre voie ? Et c'est ce que nous allons voir ce matin, avec le chapitre 2, les versets 1 à 11. Vous pouvez suivre dans votre Bible. La référence s'affiche ici. Et sinon, le texte également suit dans la version du semeur. Je me suis dit en moi-même, « Va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. » Mais cela aussi est vain. Du rire, j'ai dit, « C'est absurde. » Et de l'hilarité, « À quoi cela m'avance-t-il » Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse, et j'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel pendant les jours qu'ils ont à y vivre. J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers, et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses. Et, délice suprême des hommes, j'ai eu des femmes en quantité. Ainsi, j'ai été grand et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon labeur et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis, j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir et voici ma conclusion. Tout est vain, autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. Après la voie de la sagesse, la voie des plaisirs. Comme nous le voyons ici au verset 1, je me suis dit en moi-même, va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. Et sa conclusion, elle ne tarde pas, mais cela aussi est vain. Toujours au verset 1. La voie des plaisirs ne permet pas d'échapper à la condition humaine. Il nous fait part, il décline ensuite la voie des plaisirs avec plusieurs tentatives. Une première tentative dans le verset 2. Du rire, j'ai dit, c'est absurde. Et de l'hilarité, à quoi cela m'avance-t-il ? Peut-être ça vous est arrivé de passer déjà une super soirée, un très bon réveillon. Il y en aura un bientôt d'ailleurs. Un temps spécial entre amis, en famille, à rire de plein de choses, à plaisanter, à jouer ensemble. Ça fait du bien de rire de tout. C'est un peu comme une échappatoire. Ça fait oublier un temps, au moins le temps de cette soirée, ses propres problèmes, les problèmes du monde. Mais une fois la soirée terminée, le retour à la réalité est bien réel et est difficile. Le rire n'a rien changé à notre condition humaine. Une deuxième tentative alors, au verset 3. J'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse, et j'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel pendant les jours qu'ils ont à y vivre. L'Ecclésiaste s'est adonné au vin. Alors il y a deux interprétations ici. Est-ce qu'il a bu du vin jusqu'à l'ivresse, ivresse sur ivresse, enfin, ou bien est-ce qu'il a goûté à beaucoup de vin, de bon vin ? Alors, il n'a peut-être pas goûté au vin du domaine Natura, mais de bon vin. Il en existait certainement à l'époque. Est-ce qu'il faut trancher dans cette question ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a mené cette expérience, comme dit le texte ici, en se conduisant avec sagesse, dans le but de tester cette voie des plaisirs et puis d'observer ce qui s'ensuit. Elles sont nombreuses, beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense, les personnes qui essayent de fuir, d'oublier la réalité de la vie en atteignant un état second. Je viens de perdre mon boulot, ma femme m'a quitté, je suis condamné par une maladie, je vais me prendre une bonne cuite, j'ai besoin d'oublier tout ça. Mais là encore, est-ce que la réalité ne revient pas en pleine figure par la suite ? En plus de s'adonner au vin, à la boisson, on peut penser aussi à tout ce qui touche aux drogues, aux hallucinogènes, toutes ces substances qui provoquent des hallucinations, des états pathologiques euphoriques, à tout ce qui peut donner le sentiment de voiler un moment les souffrances de ce monde. On pourrait évoquer également tout ce qui touche aux addictions, l'addiction aux jeux, aux vidéos, au smartphone, à la pornographie, point de suspension. Elles sont souvent vécues, utilisées comme des échappatoires pour tenter d'oublier. Mais toutes ces tentatives ne sont que des illusions. C'est vain, là aussi. Dans la suite, dans les versets 4 à 10, on peut remarquer que l'Ecclésiaste utilise beaucoup « je me suis fait ». J'ai mis des couleurs ici. On a plusieurs fois le verbe « faire ». Je me suis fait des jardins, je me suis fait des bassins, je me suis fait des chanteurs et des chanteuses. J'ai possédé, j'ai amassé, j'ai réalisé. Tout ça pour moi. Dans le texte original en hébreu, on a souvent le pour moi. J'ai fait pour moi l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste dresse un bilan de sa vie, donc de tout ce qu'il a pu entreprendre, réaliser. Et on distingue ici, dans ces versets 4 à 10, trois autres tentatives, en plus de celles qu'on vient de voir, le rire et le vin. trois autres tentatives d'échapper à la condition humaine. La première, la troisième du coup des cinq. Oula, j'étais un petit peu loin. Hop. Voilà. Non, elle est là. Au verset 4, 5 et 6, je les relis. J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers. J'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Est-ce que les réalisations, les grandes entreprises qu'on peut mener dans cette vie peuvent changer quelque chose à notre condition humaine? Pour beaucoup de personnes, le travail peut devenir une idole, réellement une idole, au point que toute leur vie tourne autour de leur activité professionnelle. On ne va pas en parler plus ce matin parce que l'Ecclésiaste y reviendra un peu plus loin dans son livre et donc nous aurons l'occasion de reparler de cette question du travail. Une quatrième tentative au verset 7 et le début du verset 8. L'Ecclésiaste évoque cette fois-ci les richesses. Je me suis procuré des esclaves, des servantes, j'ai eu du personnel domestique, j'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que ça changerait si vous aviez de l'argent au point que vous puissiez aller vivre dans toutes vos nuits dans un hôtel 4 ou 5 étoiles? C'est la réalité pour quelques personnes dans ce monde. Pour un certain nombre de personnes. C'est leur quotidien pour elles. Ça ne m'est pas arrivé souvent d'aller dans un de ces hôtels de 4, 5 étoiles. Mais je me souviendrai toujours de la nuit du 13 au 14 novembre 2015. On nous avait offert, à Laura et moi, une nuit dans un très bel hôtel pour fêter nos anniversaires. Et c'est précisément cette soirée-là, cette nuit-là, qu'il y a eu les fameux attentats du 13 novembre 2015. Eh bien, quand vous vous levez le matin, le samedi matin, 14 novembre 2015, après une nuit dans ce super hôtel, le retour à la réalité, il est dur. Et quand bien même il n'y aurait pas eu ces attentats, on n'échappe pas au retour à la réalité de la vie, au train-train quotidien. On pourrait penser que la vie de riche peut nous préserver de bien des malheurs. Mais est-ce que les riches sont plus heureux que les autres? Les grands de ce monde n'ont pas l'air d'être plus heureux que les autres. Ils ont des galères, eux aussi. Ils ont les mêmes insatisfactions. Ils sont atteints par les mêmes maladies que tout le monde. Tout le monde meurt, même les riches. Il y a une génération d'artistes, de gens connus, qui s'éteint un peu plus chaque année. Aucun n'est éternel, quand bien même on pourrait nommer le nom d'une rue ou d'une place dans une ville, du nom de telle personne connue. On finit tous au même endroit. Et nous reparlerons de ce sujet dans la suite du livre de l'Ecclésiaste. Cinquième tentative, dans les versets 8, 9 et 10, l'Ecclésiaste évoque la jouissance, le fait d'avoir eu des femmes en quantité. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses, et délice suprême des hommes, j'ai eu des femmes en quantité. Ainsi, j'ai été grand, j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon labeur et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. On n'est pas plus heureux en multipliant les conjoints, les partenaires. C'est la conclusion de l'Ecclésiaste. Je connais une personne qui travaille comme gouvernante dans des hôtels 4, 5 étoiles et des clients dont je tairai le nom mais qui sont des personnes connues, quand elles viennent à l'hôtel elles arrivent à chaque fois avec une femme différente, juste pour une nuit. Elles sont nombreuses, les personnes qui enchaînent les relations affectives, qui passent de l'une à l'autre comme cela. Mais même la jouissance finit par blaser. Cela ne produit que insatisfaction. L'Ecclésiaste en parlera plus loin, au chapitre 9, verset 9. « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » Avec la femme que tu aimes. Dans ce domaine, on ne peut obtenir le bonheur qu'avec l'unique, ce que le livre du Cantique des Cantiques martèle avec force. Nous aurons là aussi l'occasion de revenir sur cette question. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans ce livre. Et puis on arrive du coup à la conclusion. Au verset 11, l'Ecclésiaste nous dit ceci: « J'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir, et voici ma conclusion. Tout est vain, autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. » On peut même noter ici, c'est suffisamment significatif pour le remarquer, il utilise les trois expressions synonymes qui ont déjà été mentionnées dans ce livre. « Tout est vain, autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. » C'est vraiment un constat d'échec sans appel. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est que ce constat d'échec, il est dressé par une personne qui, selon des critères humains, semble avoir réussi. Quelqu'un qui s'est donné du bon temps, quelqu'un qui a réalisé de grandes choses, de grandes entreprises, quelqu'un qui avait de l'argent, du pouvoir, quelqu'un qui ne manquait de rien dans la relation avec le sexe opposé. Mais conclusion, le bonheur n'est pas dans ces choses-là. L'Ecclésiaste veut nous montrer que toutes ces choses ne rassasient pas, ça n'apporte pas la solution à la question de qu'est-ce qu'on fait avec cette condition humaine qui est la nôtre. On peut passer des soirées à rire, on peut avoir plein de richesses, on peut se lancer dans tout un ensemble d'entreprises, de projets. Ça ne comble pas, ça ne rassasie pas. Par nature, nous serons toujours insatisfaits. Par nature, nous n'arriverons pas à nous contenter de ce qu'on a, parce que le rire demande et appelle toujours plus le rire. L'alcool appelle à consommer toujours plus. Les grandes réalisations appellent à toujours plus grand, parce qu'on n'est pas satisfait, il faut encore faire plus grand. L'argent appelle à plus d'argent. Le sexe appelle à plus de sexe. Et tout cela sans jamais rassasier. Quand bien même toutes ces choses que l'Ecclésiaste a testées, quand elles sont vécues, en tout cas dans la mesure et selon Dieu, toutes ces choses sont bonnes, légitimes. Le rire, de l'argent, des richesses, avoir une bonne place dans la société, dans une entreprise, entreprendre de grandes choses, se marier, etc. Il y a du bon dans cela. Et l'Ecclésiaste les a testées dans une quantité importante, peut-être même excessive, plus que ce que le commun des mortels aurait pu expérimenter lui-même. Mais ça ne l'empêche pas pour autant de dresser cette conclusion ici du verset 11. Tout est vain, autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. Pourquoi cette éternelle insatisfaction? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous contenter de ce qu'on a? J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Et peut-être que ça vous aura frappé à la lecture du texte tout à l'heure. Je vais vous lire plusieurs versets tirés du livre de l'Ecclésiaste et aussi tirés du livre de la Genèse. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins et des parcs et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. On vient de le lire, c'est Ecclésiaste 2. Genèse, chapitre 2. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin. » Encore dans le livre de la Genèse, puis Dieu dit « Que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. » Et il en fut ainsi. Nous continuons. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. » Ça, c'est l'Ecclésiaste. Et dans la Genèse, « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. » Je me suis fait des jardins, je me suis fait des bassins, et Dieu fit, une dizaine de fois dans le livre de Genèse 1 et 2. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations, littéralement j'ai considéré tout ce que mes mains ont fait et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et en Genèse 1, verset 31, nous lisons « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait ». Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? L'Ecclésiaste reprend des mots, des expressions qu'on a dans Genèse 1, Genèse 2, au moment où Dieu a créé le monde. Et ce rapprochement que l'Ecclésiaste fait avec le récit du Jardin d'Éden montre qu'il a tenté de rebâtir le paradis originel. L'Ecclésiaste a voulu se bâtir son paradis. Mais contrairement à Dieu, Dieu qui, quand il vit tout ce qu'il avait fait, il tire la conclusion, « Voici, c'était très bon !» Genèse 1, verset 31. La conclusion de l'Ecclésiaste, quand il s'est fait son paradis, « Voici ma conclusion, tout est vain. Autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. » L'Ecclésiaste n'a construit qu'un semblant de paradis. Le paradis originel est perdu, il est inaccessible. L'être humain est à la recherche du paradis perdu. Il est conscient qu'il lui manque quelque chose dans ce monde, il ne sait pas forcément quoi, alors il cherche. Il part dans toutes les directions pour tenter de comprendre, d'avoir des réponses à ces questions. Pourquoi je suis là? C'est quoi le sens à ma vie? Qu'est-ce qui pourra me rendre enfin heureux? Et il va partir à la quête de la sagesse. Et il va tester tous les plaisirs, tout ce qu'on peut s'offrir par les richesses, par les grandes réalisations, tout ce dont on peut jouir dans la vie. Mais il ne trouve pas. Pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas? Ça, c'est le texte de l'Ecclésiaste, chapitre 2, que nous avons lu ce matin. Je n'ai rien souligné ici, vous savez, pourtant j'aime bien les couleurs, mais là j'ai rien souligné parce qu'en fait il manque quelque chose d'essentiel. Dieu est le grand absent de ce texte. Il n'est pas là. C'est le grand absent, pas mentionné une seule fois. Pourtant c'est surprenant parce que l'Ecclésiaste, depuis le début du livre, on ne cesse de voir les comparaisons entre lui, l'Ecclésiaste et un certain Salomon. Et encore dans tout ce qu'on a lu aujourd'hui, il y a plein de choses qui font penser à Salomon. Et quand on regarde le premier livre des Rois, les 11 premiers chapitres, quand on parcourt l'histoire de Salomon, on se rend compte toutes les réalisations qu'il a faites, etc. Et il y a pourtant une chose qui tient une place très importante dans la vie de Salomon, qui est complètement absente ici. La construction du temple. Il n'est pas mention du temple. Pourtant, Salomon, c'est lui qui a construit le temple à Jérusalem. Il n'est pas mentionné une seule fois. Pourtant, ça a été une entreprise considérable sous le règne de Salomon. Pourquoi le temple n'est pas mentionné? Parce que précisément, l'Ecclésiaste a tenté de se bâtir son jardin d'Éden à lui. Et il n'a pas placé Dieu au centre de ce jardin. Et donc, c'est la grande différence d'avec le texte que nous avons lu dans la Genèse, Genèse chapitre 1, chapitre 2, où c'est Dieu qui a réalisé le jardin d'Éden pour l'être humain, pour le bonheur de l'être humain. Et dans ce jardin d'Éden, Dieu est présent. C'est la raison pour laquelle l'être humain pouvait être heureux. C'était la présence de Dieu dans ce jardin de délices, dans ce jardin d'Éden. Mais un jardin d'Éden sans Dieu, ce n'est pas le jardin d'Éden originel. Et cela ne peut que nous décevoir. Ce n'est que vanité. C'est dérisoire de chercher à construire son propre paradis. Et c'est pourtant ce que tout être humain cherche à faire, chacun à sa manière, avec ses tentatives. Pourquoi cette éternelle insatisfaction? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous contenter de ce qu'on a? Pourquoi toutes ces choses qu'on peut faire, réaliser, expérimenter, tous ces biens qu'on peut amasser, pourquoi ça ne rassasie pas? Parce que tout cela ne donne lieu qu'à une caricature du jardin originel. Il manque l'essentiel, il manque la personne de Dieu. C'est la grande leçon que l'Ecclésiaste veut nous laisser avec le texte que nous étudions ce matin. Finalement, ce qui n'est pas dit dans ce texte, ce qui est absent de ce texte, c'est pourtant ce qui parle avec le plus de force. C'est qu'en fait, c'est la présence de Dieu qui fait le paradis. Vous enlevez Dieu et ce n'est plus le paradis. C'est la présence de Dieu qui peut réellement rassasier, combler, comme c'était le cas dans le jardin d'Éden. Un certain John Piper a dit la chose suivante: la question cruciale à poser à notre génération et à toutes les autres est celle-ci. Si vous pouviez aller au ciel, être pour toujours en santé, accompagné de tous vos amis, manger toute la nourriture que vous aimez, profiter de tous les divertissements que vous connaissez, de toute la beauté naturelle dont vous ayez été témoin et de tous les bonheurs physiques dont vous ayez pu jouir, tout en étant dispensé des conflits interpersonnels et des désastres naturels, y seriez-vous heureux et satisfait si Christ n'y était pas? C'est une question rhétorique. La réponse est non, on ne serait pas heureux. Mais probablement que beaucoup de personnes répondraient autre chose. Ah ben oui, moi je serais heureux, bien sûr, évidemment. Mais John Piper, et j'espère nous aussi, nous dirions non à cette question. Probablement que beaucoup diraient, mais oui, bien sûr. Mais on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être comblé sans Dieu dans notre vie. On peut essayer tout ce qu'on veut dans la quantité, dans l'excès même, ça ne comble pas, ça ne rassasie pas. C'est la grande leçon que l'Ecclésiaste veut nous enseigner aujourd'hui et j'affiche ici le plan de tout l'enseignement de ce matin. Adam et Ève étaient dans le jardin originel. Ils jouissaient de cette présence, de la présence de Dieu, de cette communion parfaite avec Dieu dans un monde parfait. Mais malgré cela, dans ce jardin où Dieu avait tout créé pour eux, pour les rendre heureux, eh bien, ils ont finalement choisi une autre voie en mangeant du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si Dieu voulait vous priver de quelque chose, voilà ce que le serpent a insinué dans leur tête. En faisant le choix de la désobéissance, Adam et Ève ont choisi de devenir eux-mêmes comme Dieu et de pouvoir par eux-mêmes choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais en faisant cela, ils n'ont fait que finalement choisir d'autres dieux, avec un petit dé cela, des dieux qui ne rassasient pas. Dans la suite de son livre, l'Ecclésiaste dira à plusieurs reprises, et on y reviendra, « Jouis de la vie, car c'est un don de Dieu. » Ou encore ce verset que nous avons déjà lu tout à l'heure, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » Mais c'est un peu contradictoire avec ce qu'on vient de dire en Ecclésiaste 2, versets 1 à 11. En fait, il y a une différence énorme. D'un côté, poursuivre toutes ces choses, tous ces plaisirs en vue de se construire son propre jardin, son propre paradis. Et puis d'un autre côté, recevoir ces choses de la part de Dieu comme une grâce, sans les rechercher nécessairement. quand je poursuis tous ces plaisirs de la vie, l'accumulation de biens, de richesses, comme l'Ecclésiaste l'a fait ici, je fais exactement aussi comme Adam et Ève. Je choisis les dieux que je veux suivre. Mais ce sont des dieux qui ne rassasient pas, des dieux qui ne sont que, pour reprendre l'image de Jérémie, qui ne sont que des citernes crevassées. Ça ne rassasie pas, ça ne désaltère pas. Par contre, quand je reçois les grâces que Dieu m'accorde dans sa grâce, j'apprends à jouir de ces choses, dans la mesure, dans la quantité qui m'est donnée, et sans que cela devienne une idole dans ma vie. Adam et Ève ont échoué. L'Ecclésiaste a échoué dans sa tentative. Tout être humain a échoué ou échouera à tenter de se bâtir son propre paradis. On peut évoquer quand même une personne qui s'est trouvée elle aussi dans un jardin et qui a eu à faire ce choix entre d'un côté la voie de la facilité, de la liberté, et de l'autre côté aller jusqu'au bout de ce pourquoi elle était là. Cette personne, c'est Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané. Jésus, le nouvel Adam, comme Paul le mentionne en Romains chapitre 5. Le nouvel Adam a réussi, Jésus a réussi là où le premier Adam, en Genèse, a échoué. Là où chacun de nous sommes voués à échouer, sauf si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Parce qu'en plaçant notre confiance en Jésus, on peut être libéré. Libéré de cet esclavage, libéré de cet esclavage du péché, libéré de cette idolâtrie qui nous ramène toujours à ces mêmes idoles, à ces dieux qui ne rassasient pas et qui ne rassasieront jamais. Mais en Jésus, nous avons cette espérance que la condition humaine que nous vivons aujourd'hui, dans cette vie marquée par le péché, cette condition humaine, elle prendra fin lorsque Jésus reviendra. Et alors Jésus établira à ce moment-là l'Éden originel, et même encore mieux que cela, plus grand, plus beau. Il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus non plus les conséquences du péché. Et nous vivrons dans une relation parfaite avec Dieu, notre Créateur. Il est temps de conclure. J'imagine tout le monde connaît ce petit jeu pour enfants. Vous connaissez le principe, hein ? Il faut faire rentrer la pièce en forme de rond dans le trou, en forme de rond, le triangle, etc. Le trou en forme de triangle et ainsi de suite. Et quand vous donnez ce jeu à des enfants, des jeunes enfants, ils essayent, ils comprennent qu'il faut faire rentrer les choses, mais ils veulent rentrer le triangle dans le cœur et le carré dans l'étoile. Et bien sûr, ça ne marche pas. Et puis au bout d'un moment, ils finissent par trouver que le triangle rentre dans le triangle. Mais j'ai l'impression que parfois, nous, les êtres humains que nous sommes aussi comme ces enfants, à vouloir essayer de combler notre cœur avec le rond de l'argent, des richesses, avec le carré des réalisations, des entreprises bien faites, bien droite, le cœur des relations affectives, de la sensualité, voire de la luxure, le triangle des plaisirs de la vie. Et l'être humain essaye de faire rentrer tout ça dans sa vie, dans son cœur, de se nourrir de ça, mais ça ne rentre pas. Pourtant, il essaye encore sans être jamais rassasié. Ça ne rentre pas. Parce que la seule chose qui pourra rentrer et rassasier son cœur, c'est la croix de Jésus-Christ. Blaise Pascal a écrit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître en Jésus-Christ. » Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Je ne sais pas avec quoi vous êtes venu ce matin, quelles sont les pièces que vous voulez faire rentrer dans votre cœur, dans votre vie. Peut-être notre travail ne nous comble pas, et du coup on pense qu'il faudrait trouver un autre travail pour être heureux. Peut-être c'est le célibat, on en souffre, on espère trouver l'âme sœur. Je ne sais pas, peut-être encore autre chose. Il y a plein de situations où finalement on n'est pas rassasié et on veut plus, on veut mieux. On veut profiter davantage. Mais sachons une chose, il n'y a que Jésus-Christ qui peut combler parfaitement tous les besoins de notre âme, même déjà dans la vie présente. Bien des choses peuvent apporter de la joie dans la vie, mais il n'y a pas de joie durable sans Dieu. C'est la grande leçon de ce texte de ce matin. Jésus est celui qui donne un sens à notre vie. Et en lui, nous avons cette espérance que la condition humaine, marquée par le péché et ses conséquences, prendra fin lorsqu'il reviendra. Je vous invite à faire un temps de silence pour laisser travailler peut-être l'une ou l'autre des choses qui ont pu être dites ce matin et laisser travailler dans notre cœur, dans notre vie.